Vous êtes sur RTL.
7h45, merci d'écouter RTL. Nous recevons ce matin Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Bienvenue Monseigneur Ribadeau-Dumas.
Bonjour Yves Calvi.
Merci d'être avec nous ce matin en direct dans ce studio d'RTL. Vous serez à partir de samedi à Lourdes pour une assemblée plénière et fait notable cette année. Vous allez recevoir les victimes d'actes pédophiles par des clercs. C'est bien une première sous cette forme?
C'est une première sous cette forme, même si les évêques dans les diocèses ont déjà reçu pour beaucoup d'entre eux des victimes d'actes pédophiles. Mais ce que nous avons voulu pour cette assemblée plénière, c'est que justement, après ces rencontres individuelles, il y ait l'ensemble des évêques qui puissent discuter avec les victimes dans une formule qui est habituelle dans notre conférence, c'est-à-dire des groupes d'évêques, ce qu'on appelle des forums, où 35 évêques pourront discuter, écouter d'abord deux victimes, puis avec elles, travailler sur un certain nombre de sujets que ces victimes ont choisis.
On va détailler tout cela. Pourquoi maintenant et pourquoi en même temps avoir attendu aussi longtemps pour le faire ?
Cette décision a été prise au printemps dernier. Et donc, comme nous n'avons que deux assemblées par an, il faut aussi que les choses puissent se faire en temps voulu. Et parce que il était nécessaire sans doute avant que les évêques puissent eux-mêmes rencontrer les victimes qu'ils souhaitaient. Et puis, il a fallu aussi que les victimes acceptent de pouvoir témoigner devant les évêques. C'était pas évident.
Non.
Pour un certain nombre d'entre elles, c'est même un acte difficile. Quelques-unes d'entre elles ont requis l'anonymat complet. C'est montrer que cet acte est un acte important, qu'il est important pour ces victimes, mais qu'il est important également pour les évêques.
L'objectif, c'est une transparence totale.
L'objectif, c'est bien entendu de faire la vérité sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe. Et surtout, en écoutant les victimes, de voir comment on peut développer une lutte encore plus forte et plus déterminée contre les actes pédocriminels.
Alors, 8 victimes ont été invitées. Comment ont-elles été choisies, Monseigneur Ribadeau-Dumas? Quel est leur profil et ensuite, comment ça va se passer?
Donc, dans ces victimes, il y en a un certain nombre avec lesquels nous sommes en lien régulier et qui ont accepté de venir. Et puis d'autres nous ont été indiqués par des évêques, c'est-à-dire que nous savions qu'il y avait dans des diocèses des victimes qui pourraient être capables de venir témoigner et qui pourraient avoir ce désir de venir témoigner devant les évêques.
Donc en lien avec la chaîne cléricale en quelque sorte qui
C'est pas la chaîne cléricale, c'est d'abord certaines victimes avec lesquelles nous sommes en lien régulier qui ont pu nous indiquer d'autres et nous sommes après rentrés en contact avec elles. Elles sont diverses, il y a des hommes et des femmes, il y a un prêtre, il y a des laïcs, bien entendu, qui ont comme caractéristique de toutes avoir été abusées par des clercs, qu'il s'agit de prêtres diocésains ou de religieux.
Vous les avez déjà rencontrés, vous, ces victimes ?
Alors moi, j'en ai rencontré un certain nombre, quelques-unes, celles-là ou d'autres d'ailleurs, et les évêques qui sont en charge de la préparation de cette séquence de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée plénière, ont travaillé avec 3 d'entre elles pour préparer ce temps.
Cette prise de conscience dans l'Église était devenue visiblement indispensable. Vous venez de publier un rapport d'étape sur la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église. Je le rappelle, et on l'évoquait ici même hier matin, en un an et demi, de 2017 à 2018, 211 victimes d'abus sexuels commis par des clercs se sont manifestées auprès des évêques. C'est presque autant de signalements entre 2010 et 2016. Ça veut dire que la parole s'est tout simplement libérée.
Oui.
On ose en parler.
Oui, et je souhaite que cette parole continue de se libérer. C'est quelque chose qui pour moi est évident. Et si cette parole se libère, c'est peut-être en partie en raison des outils que nous avons mis en place, mais surtout et également en raison de ce que les médias ont pu dire, et c'est pourquoi je les remercie, ainsi que les associations de victimes. Et il est nécessaire que cette parole se libère, parce que nous voyons bien combien des actes qui ont été commis il y a 50 ou 60 ans continuent de marquer d'une manière indélébile les personnes, et que le fait de pouvoir en parler les soulage. Et nous ne pouvons que accepter cela, écouter cela et essayer d'aider les victimes à se reconstruire.
Alors, parmi les outils pour, je dirais, faire la transparence et se dire les choses, il y a ces cellules d'écoute auxquelles vous avez fait allusion. Comment ça marche? Comment ça se passe concrètement, au jour le jour, dans nos départements, aujourd'hui, et comment cette parole est-elle prise et dans quel cadre?
Donc, en avril 2016, au moment où a éclaté l'affaire du père Prénat à Lyon, la Conférence des évêques de France a pris un certain nombre de mesures, et notamment a souhaité que dans tout ce qu'on appelle les diocèses, qui correspond à un département, des personnes qui ont été victimes puissent être écoutées. Et cette écoute des victimes était fondamentale. Et il y a plusieurs moyens d'être écouté. Il y a l'évêque peut écouter, ses collaborateurs les plus proches peuvent écouter, mais certaines personnes ne veulent pas parler à l'évêque. Et donc nous avons mis en place ce qu'on appelle des cellules d'écoute et d'accompagnement. Il y en a 71 dans la France, qui sont composées de différentes personnes. Ce peut être des psychologues, ce peut être des magistrats, ce peut être des éducateurs, qui peuvent être contactés par l'intermédiaire d'une adresse mail ou d'un numéro de téléphone. Nous avons, nous, au niveau national, un site qui s'appelle parole de victime, et une fois que ces cellules sont contactées, les personnes rencontrent les victimes rencontrent les personnes qui composent cette cellule pour pouvoir raconter leur histoire, être écoutées, être accompagnées.
Que vous disent ces victimes ?
Elles disent plusieurs choses. Elles racontent d'abord le drame qu'elles ont vécu. Elles racontent comment elles n'ont pu parfois survivre, et on les appelle les survivants, hein, qu'elles ne peuvent parfois survivre qu'en se construisant autour de ce qu'elles ont vécu. Et elles racontent les blessures que ça a représenté, les cassures dans leur existence. Elles racontent parfois, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les abus sexuels commis par un prêtre sont aussi des abus spirituels. Oui. Elles racontent comment leur foi, comment leur rapport à Dieu et à l'Église a pu être brisé. Et c'est à partir de tout ça que, dans un infini respect et une grande humilité, nous essayons aussi de les aider et de les accompagner dans une restauration de ce qu'elles sont.
Les évêques, les prêtres, sont-ils préparés à entendre ces récits ?
Je ne sais pas s'ils étaient préparés. Et le fait même qu'en 2016, il y ait eu cette espèce de rebondissement des affaires de pédophilie montre que peut-être n'avaient-ils pas été... n'attendaient pas à ces récits de victimes. Aujourd'hui, je pense que parce que les victimes ont parlé dans la presse, dans les médias, et parce qu'elles ont été écoutées aussi par des prêtres et des évêques, ils ont davantage l'habitude. Mais vous savez, en même temps, ce sont des récits extrêmement lourds. Et donc je pense qu'on ne s'habitue jamais, et j'espère qu'on ne s'habituera jamais. Mais je pense que nous avons cette obligation d'écouter et d'accompagner, et non seulement d'écouter et d'accompagner, mais de se servir de ce que nous avons entendu pour aller plus loin dans la prévention et dans le souci à apporter aux personnes.
Monseigneur Ibado Dumas, au nom de ce que vous venez de nous dire, est-ce que ces cas et ces récits sont automatiquement transmis au procureur ou à la justice ?
Aujourd'hui, nous avons pris l'engagement, il y a 2 ans et demi, nous avons pris l'engagement que lorsque une personne se signalait comme victime, nous transmettions les affaires à la justice, soit parce que la personne elle-même portait plainte, soit parce que le prêtre incriminé se dénonçait, soit parce que l'évêque faisait un signalement.
Donc ça n'est pas un filet qui permettrait au contraire de cacher les choses, mais il y a bien une mise en place d'un système qui permet de saisir aussi la justice.
Nous voulons
d'aller à une vraie transparence,
une
vraie clarté.
Nous voulons une collaboration complète avec la justice.
Le climat est difficile sur le terrain pour les prêtres. Hein, les jeunes prêtres, comment reçoivent-ils ces messages aujourd'hui ? Se font-ils aider ? Existe-t-il des formations pour savoir comment répondre aux angoisses des victimes ? Et vous avez dit vous-même il y a quelques instants, il y a des abus physiques et il y a des abus moraux aussi dans cette... Dans ces situations.
Oui, alors, je voudrais aussi dire que ces cas ne concernent qu'un nombre réduit de prêtres, hein, et que la très grande majorité des prêtres sont des prêtres fidèles dans leur ministère, soucieux d'être des vrais pasteurs, et que pour eux aussi, c'est quelque chose de très douloureux. Il ne faut pas oublier qu'ils souffrent aussi de ce que ce corps qui est l'Église est marqué d'une manière ignominieuse par ces actes-là, et qu'un certain nombre se font traiter dans la rue de pédophiles. C'est difficile quand vous êtes prêtre, que vous êtes fidèle et que dans la rue on vous dit pédophile. C'est difficile et j'ai l'exemple là de quelqu'un qui sortant d'un train s'est fait agresser à la sortie dans la gare en lui demandant s'il était prêtre. Il a répondu oui, il a dit on vous éliminera jusqu'au dernier. Donc il y a aussi ce climat
vous
de suspicion
qu'il y a un acharnement contre l'Église aujourd'hui.
Non, je pense qu'il y a une suspicion contre des prêtres. Et que je suis marqué de ça.
Parce que vous étiez le gardien de la morale. Vous comprenez
cette responsabilité, nous l'assumons. Nous assumons ce fait qu'effectivement, nous avons failli dans la responsabilité qui était la nôtre. Ce qui n'élimine en aucun cas le fait que l'immense majorité des prêtres sont au service de ceux qui leur sont confiés pour la mission qui est la leur, qui est l'annonce de l'Évangile.
129 clercs mis en cause en 2017 et en 2018. 10 ont été mis en examen. Et à Orléans, de la prison ferme a été requise contre un prêtre et un évêque. Le procureur a demandé que le jugement soit un électrochoc. L'un des prévenus, l'ancien évêque d'Orléans, ne s'est pas rendu au procès. Le procureur a parlé de lâcheté.
Bien entendu, j'ai suivi ce procès de Monseigneur Faure. Je ne commente bien entendu pas les réquisitions du procureur, mais je voudrais dire que l'électrochoc, il est fait justement par cette écoute des victimes. C'est parce que les évêques ont écouté des victimes que l'électrochoc s'est fait, parce qu'on ne peut pas rester insensible à ce qui était fait là. Et puis il me semble aussi que le procès de Monseigneur Faure, c'est d'abord celui du procès du père de Castelet, c'est-à-dire l'auteur. Et que quelquefois, on a l'impression que c'était d'abord le procès de l'évêque qui est accusé d'avoir couvert ses faits, plutôt que le procès de l'auteur.
Mais il n'a pas dénoncé.
Il n'a pas dénoncé, effectivement, et en cela, il aurait dû dénoncer, si les faits sont prouvés, c'est exact. Mais ça ne peut pas être le procès, me semble-t-il, c'est le procès des actes d'un homme, c'est pas le procès de l'Église. le procès de l'Église, il est fait dans l'opinion publique, il est fait dans les médias. Cet homme a commis des actes, c'est pour ces actes-là qu'il doit être jugé s'il est reconnu coupable.
Que souhaitez-vous dire ce matin, Olivier Ribadeau-Dumas, aux victimes éventuelles de prêtres et d'autres hommes d'Église qui nous écoutent aujourd'hui sur RTL?
Je veux leur dire avec une très grande humilité et en même temps une grande détermination que c'est ensemble que nous arriverons à lutter contre ce fléau qu'est la pédophilie. C'est ensemble, en s'écoutant, en travaillant ensemble, en mettant en place ensemble des outils adaptés que nous ferons reculer cela et que nous éradiquerons ce fléau.
Certaines victimes qui ont accepté de parler devant les évêques, et ils le feront à partir de samedi, vous ont-elles dit qu'elles avaient du coup abandonné leur foi ou qu'elles l'avaient perdue dans ces épreuves?
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. C'est évident qu'il y a parmi les victimes des gens qui ont quitté l'Église dégoûtés par ce qu'ils avaient subi, dégoûtés peut-être aussi de ne pas avoir été écoutés.
Alors, il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire sur la pédophilie dans l'Église, finalement. Le projet qui était réclamé par les sénateurs socialistes a finalement été rejeté et on s'achemine vers une simple mission d'information. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que cette mission d'information sera nécessaire parce qu'elle permettra de faire la lumière dans ce qui se passe dans l'Église, mais aussi dans d'autres franges de la société, ce qui ne nous élimine pas, nous, de faire la vérité et la transparence sur ce qui a existé pendant des décennies, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, et ce qui a contribué à ce que ces faits ne soient pas révélés. Et donc, le président de la Conférence des évêques, Mgr Pontier, n'a nullement éliminé l'idée de la création d'une commission indépendante qui permettrait justement de faire la lumière sur ce qui a existé. Et cette commission indépendante sera certainement au cœur des discussions que nous aurons à Lourdes à partir de samedi.
Une dernière question. Le gouvernement présente fin novembre un projet de loi sur les questions de bioéthique, où seront évoquées la question à la fois de la PMA et de la GPA. Est-ce que vous seriez prêt à vous mobiliser contre ce projet de loi en tant qu'Église de France, si je puis dire, y compris dans la rue?
Le désir des évêques, c'est d'éveiller les consciences. Nous ne vivons pas ça comme un combat. Nous vivons ça comme la nécessité d'annoncer ce qu'est pour nous la dignité de l'homme et ce qu'est pour nous la société. Et nous voulons répondre à la question que les États généraux de la bioéthique posaient, quelle société voulons-nous pour demain? C'est la responsabilité après des citoyens, catholiques ou non, de prendre les moyens qu'ils jugent bons pour manifester leurs idées.
Merci beaucoup Olivier Ribadeau-Dumas. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Conférence des évêques de France qui se réunit donc dès samedi à Lourdes. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL.
Merci à vous.
Bonne journée à vous.